7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. Aujourd'hui, journée mondiale du sport féminin. Et à cette occasion, nous allons nous interroger sur les disciplines mixtes, les doubles au tennis, les courses en relais ou encore des sports plus confidentiels comme le roller derby. Ces sports mixtes sont-ils plébiscité désormais par le public? C'est une question que je vous pose. Aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, je crois qu'il y aura 9 épreuves mixtes. Alors la question n'est pas tant de savoir si une championne peut battre un champion, encore qu'on pourra se la poser, mais plutôt qu'est-ce qu'une épreuve mixte peut apporter au sport, à la fois comme défi technique et humain. Beaucoup de choses à découvrir dans cette émission. On va en discuter avec vous. Béatrice Barbus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une ancienne sportive de haut niveau, ex-handballeuse, secrétaire générale de la Fédération Française de Handball. Fédération pour le masculin et le féminin, je précise. Et vous avez été d'ailleurs pendant un moment la seule femme à diriger un club professionnel masculin de première division, c'était l'US Ivry Handball. Vous êtes aussi sociologue du sport et vous publiez « Du sexisme dans le sport » aux éditions Anna Moza. Patrick Mignon, bonjour.
Bonjour.
Sociologue du sport également. Vous avez longtemps travaillé à l'INSEP, hein, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Nous sommes aussi en ligne avec Sylvain Landa, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du groupe de réflexion sport et citoyenneté. Et bien sûr, les voisins et les voisines, vous pouvez nous appeler sur la mixité dans le sport. 33 1 84 22 71 71. Et également nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Mais évidemment, on préfère vous avoir de vive voix, en direct, en dialogue avec nous dans l'émission.
7 milliards de voisins. Pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Nous sommes en ligne au 33 1 84 22 71 71 avec un voisin qui nous appelle N'Djamena, la capitale tchadienne. Bonjour Sunda.
Oui, bonjour, Emmanuel Bastide.
Sunda, vous avez...
Bonjour.
Oui, bien sûr, et bienvenue dans l'émission. On est ravis de vous accueillir. Vous posez une question intéressante, en fait, par rapport au sport féminin, avant de parler de mixité dans le sport. Sunda, on vous écoute.
Oui, d'accord. Ce que je déplore d'abord, c'est le retard en Afrique des activités sportives féminines.
Oui.
Et faudrait-il pas le développer avant de parler de mixité.
Ouais. Oui, on vous écoute, Sunda.
Il existe des activités pour les femmes, mais très peu. Par exemple, un professeur de lycée a monté en N'Djamena une équipe de foot féminine. Et c'est déjà bien, mais ces activités ne sont pas assez encouragées par l'État, ni par les fédérations sportives. Les moyens manquent. Mais à l'école, la mixité n'est pas assez dans les mœurs.
Quand il y a des activités sportives au lycée, ces activités ne sont pas mixtes, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Merci Sunda de nous avoir appelés. Je voudrais qu'on donne la parole à un de vos compatriotes, si vous voulez bien rester en ligne d'ailleurs, vous pouvez Sunda, mais Hosanna est à Béboto, dans le sud du Tchad. Bonjour Hosanna.
Bonjour Emmanuel Bastide et bonjour aux invités.
Vous entendiez Sunda qui déplorait, qui disait avant de parler de mixité dans le sport, il faudrait déjà que sur notre continent, l'Afrique, le sport au féminin se développe et déjà au niveau des citoyens, de la pratique de tous les jours. Je crois que votre cousin a monté il y a un an et demi un club de foot mixte, c'est bien ça pour les jeunes?
Oui, en fait, mon cousin a monté un club de football mixte qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles pour qu'elles aiment le sport, notamment le football. Parce que ici, les femmes ou les jeunes filles pensent que pratiquer le sport est tabou et que seuls les garçons sont appelés à faire le sport.
Oui.
C'est pourquoi mon cousin, qui est un animateur sportif, il a été formé à l'Institut National de la Jeunesse et du Sport, INJS, à la volonté de promouvoir la mixité dans le sport.
Mais alors, ce club, à l'heure actuelle, il fonctionne? Il y a combien de jeunes, combien de filles, combien de garçons, de quel âge?
Bon, l'âge varie de 12 à 15 ans. Mm. Et il y a au moins 15 filles et 10 garçons.
Ah ouais, à Beboto donc, hein?
Oui, 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 à Beboto.
Et c'est populaire? Je veux dire, c'est bien perçu?
Oui, c'est populaire et même médiatisé. Ah, parfois, il fait des émissions pour sensibiliser les parents afin qu'ils laissent leurs filles venir adhérer à ce groupe.
Ouais, ouais.
Parce que l'entrée n'est pas payante, c'est gratuit.
Ah, donc, d'accord. Quand on est une fille pour adhérer au club, c'est gratuit?
Oui, c'est gratuit. L'entrée n'est pas payante. Mmh. C'est gratuit. Juste la volonté. Si tu désires être dans ce groupe et pratiquer du sport, tu peux entrer sans donner quelque chose.
Mmh. Et que disent les garçons de jouer au foot avec des filles?
Bon, parfois, ça les dérange un peu. Mais tout de même, ils essayent de les canaliser. Ouais. Ils essayent de vraiment les orienter. Et là, il y a vraiment des disciplines. Il n'y a pas de complications. Ils s'entendent bien. Malgré que les filles ne sont pas performantes, elles ne résistent pas comme les garçons.
Parce qu'on est bien d'accord, Rosanna, que quand il y a des matchs, les filles et les garçons alors, jouent ensemble, ce sont des équipes mixtes qui s'affrontent?
Oui, oui, c'est des équipes mixtes qui s'affrontent.
D'accord.
Mais franchement, les filles se fatiguent trop vite. 15 minutes de jeu, 20 minutes de jeu, elles n'arrivent même pas à tenir.
Ouais, c'est peut-être une question d'entraînement, tout simplement, si elles n'ont pas fait de sport auparavant, alors que les garçons courent après le ballon depuis qu'ils ont 3-4 ans, non?
Justement, c'est ça même.
Merci, Rosanna, de nous avoir appelé. Sunda, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne, mais est-ce que l'exemple de d'Ozana, du cousin d'Ozana à Beboto, vous donne de l'espoir?
Oui, je me donne de l'espoir. Mais n'est pas assez encouragé comme dit par la fédération.
Au niveau national, on est bien d'accord. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir appelés voisins tchadiens. La question finalement de s'interroger d'abord sur la place du sport au féminin dans un pays avant de s'interroger sur la mixité, Béatrice Barbus, ça semble évident. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les pays qui mettent en avant, qui sont les plus en avance sur la mixité dans le sport, sont aussi des pays où le sport féminin est déjà très bien installé, Béatrice Barbus?
Alors, deux remarques par rapport à ce que vous venez de dire. Ça semble évident, ben non, ça n'est pas si évident que ça. Justement, moi je vois notamment dans notre pays où le sport au féminin est beaucoup plus développé que, même s'il ne l'est pas suffisamment, hein, mais plus développé que dans les pays dont on vient de parler, par exemple, africains. On voit une tentation et une tendance aujourd'hui, d'ailleurs votre émission... est là pour le démontrer, qu'il faut davantage aujourd'hui parler de mixité, remplacer féminisation par mixité. Et que ça y est, on a gagné sur le plan de la féminisation du sport. Moi, je rejoins tout à fait la remarque de Sunda, qui est très intéressante. Bien sûr qu'avant de parler de mixité, il faut parler de féminisation. Je ne vois pas comment on va pouvoir organiser la mixité sur les terrains ou dans les clubs si les femmes ne font pas massivement du sport. Donc, c'est une évidence qui n'est pas si évidente que ça, et il me semble nécessaire de la rappeler. Donc aujourd'hui, par exemple, parler de mixité dans le football français, où les filles représentent, je ne sais plus, 5 ou même pas 10% à peine du nombre d'adhérents, ça semble compliqué.
Mais imagine des équipes mixtes dans le football, on est sur la planète Mars.
Ça existe chez les enfants, chez les moins de 12 ans, tout ça,
c'est
pratiqué en mixte, en mixité, sans aucun souci.
Patrick Mignon.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord sur la distinction féminisation-mixité. Et ça pose aussi la question de savoir à quel niveau on parle de sport. Parce que si on parle du sport du plus haut niveau, là on a affaire à des choses qui sont très organisées, sur lesquelles il y a un certain nombre de raisons qu'on peut bien identifier pour lesquelles les compétitions sont séparées entre hommes et femmes, par exemple. Mais si on se met au niveau loisir... il y a les questions physiologiques sur lesquelles on peut discuter beaucoup, mais elles sont là. Hein, si vous prenez les sports de puissance en rugby, par exemple, il y a du rugby féminin, voilà. Vous mettez au niveau du loisir. Les choses sont complètement différentes, parce que dans le niveau loisir, vous avez une certaine possibilité de jouer avec les règles. Bon. Après, vous avez la question des instances, parce que ce que pose Béatrice là, c'est effectivement ça, c'est si les instances ne sont pas féminisées, donc d'une manière un peu plus mixte qu'elles l'étaient, il y a l'attractivité De ouais. ces,
ce Alors, on va sport. Bien sûr en parler de ce sport de haut niveau, parce que c'est ce qui nous intéresse. Hein. Je disais en ouverture d'émission que pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, il y aura à peu près une dizaine de disciplines mixtes, d'épreuves mixtes. Je voudrais qu'on revienne aux années 70. Une compétition sportive où s'affrontent un homme et une femme, il y en a eu, mais la plus célèbre, c'est probablement ce match de tennis, où une femme, Billie Jean King, au sommet de sa gloire à l'époque, a battu un homme, Robbie Riggs, en 1973. Certes, le champion avait presque le double de son âge à elle, mais il était persuadé de gagner. C'est un tournoi qui a été ultra, ultra médiatisé aux États-Unis à l'époque et qui a d'ailleurs inspiré le film Battle of Sex. Of the... Allô ?
Eureka, Billie Jean !
C'est Bobby, Bobby Riggs. Écoutez, j'ai une idée géniale.
Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues.
Rien de personnel.
Vous êtes toujours féministe ?
Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme.
Ne rapprochez pas !
Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes.
Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebellées.
Vous offrez 8 fois plus aux hommes qu'aux femmes.
Les hommes sont tout simplement plus captivants à voir jouer. C'est biologique.
Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un court. Qui diable ramasserait les balles ?
Oh mon Dieu. Il est imbuvable, ce type. Je le déteste.
$100 000 à la femme qui battra Bobby Riggs.
Appelle le clown. J'accepte le défi.
Direct dans 3.
Je vais devenir la meilleure.
2.
Comme ça, je pourrais
1.
Changer les choses. Assez parlé, place au sport.
Mesdames et messieurs, comme on dit, le match show must go on.
1 million de téléspectateurs. La bataille est tant attendue. La bataille des sexes.
C'est un film qui est sorti à l'automne dernier en France. The Battle of the Sex. Finalement, est-ce que ce match a été un grand moment de sport ou pas, dans le fond, Béatrice Barbus ?
Un grand moment de sport d'un point de vue uniquement, exclusivement sportif, pas réellement. On ne peut pas considérer ça comme un vrai moment de sport. Mais en revanche, oui, c'est un vrai moment de l'histoire du sport au féminin. Ça, c'est une certitude parce que Billie Jean King, avec ce match-là, a réussi à faire évoluer, notamment au niveau salarial et des prize money, l'égalité entre hommes et femmes sur certains tournois. Et c'était à l'époque également où, avec d'autres femmes, elle aimait tennis woman, hein, elle mettait en place un tournoi spécifique féminin, puisque justement elle ne pouvait pas avoir les conditions qu'elle souhaitait dans le tournoi masculin. Donc elles se sont dit, bon, ok, on va organiser notre propre tournoi. Et c'est arrivé au même moment. Donc c'est un moment vraiment très très important dans l'histoire du sport. Après, sur le plan purement tennistique, je laisse ça aux spécialistes, mais je crois pas que ça laissait laisser. En plus, elle l'a battu vraiment bien comme il fallait, à plate couture. Alors que lui, ce que vous avez pas dit, c'est qu'avant qu'elle accepte de jouer contre lui, lui a joué contre la numéro 1 de l'époque, l'Australienne, et qu'il l'a battu.
Il
à
l'avait
plate
battu,
couture.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est ça qui a décidé vraiment Billie Jean King à dire, je vais le faire ce match-là.
Ouais. Aujourd'hui, le tennis, c'est le sport féminin toujours le plus regardé, le plus populaire. Est-ce que c'est ce qui fait aussi que du coup on a du double mixte et que ça c'est attrayant pour le public ?
Bah, disons que c'est celui. C'est, voilà, dans les sports, vous avez des sports dans lesquels vous avez un contact direct entre les participants. Bon, là, vous avez une séparation, donc du coup, une séparation des sexes sur la pratique du sport. Le tennis, il y a un filet. Donc, du coup, vous pouvez envisager en tennis des confrontations qui sont des confrontations qui pourront jouer sur un niveau technique. Alors, bien évidemment, physique, il faut pouvoir courir, il faut pouvoir récupérer.
Pas de contact physique direct.
Voilà, faut taper fort, bon. Mais vous n'avez pas de contact direct. Et le double mixte, par exemple, bon, bah, prend tout à fait son sens, d'autant plus que le tennis est quand même un sport de sociabilité, ce qui est aussi un truc important à dire. C'est quelque chose qui est dans la bonne bourgeoisie et l'aristocratie anglaise, et puis transféré en France, etc., sur le même modèle. Donc quelque chose dans lequel il y a vraiment une sociabilité entre les hommes et les femmes.
Parce que c'est mixte depuis la fin du 19e siècle.
Depuis l'origine. Depuis l'origine. Hein, voilà, donc on peut se marier en faisant des matchs de tennis dans ce milieu. Ça fait partie des activités dans lesquelles c'est des activités sociales. Mmh. Activités sociales. Bon, donc voilà, ça fait qu'effectivement on peut créer des compétitions de ce type. Donc voilà, il y a comme ça un certain nombre de l'équitation qui est aussi dans ce.
C'est un des sports les plus mixtes d'ailleurs.
Voilà.
Aux Jeux Olympiques, sur plusieurs compétitions, plusieurs épreuves d'ailleurs, dressage, saut d'obstacle.
Voilà, vous citez,
etc.
Si vous citez
là, les femmes sont en compétition contre les hommes, d'ailleurs.
Bien sûr. Si vous citez les quelques sports aujourd'hui qui sont mixtes, où il y a de la mixité en relais, etc., la natation, l'athlétisme, le tennis, ce sont des sports où il n'y a pas de contact. exact comme il vient de vous le dire, monsieur Mignon, effectivement.
Et pour l'équitation, c'est le cheval, c'est le cheval qui fait l'effort musculaire hein, aussi.
Il faut, il faut la voile aussi.
Il faut quand même le dire. Régulièrement, des championnes ont envie de s'affronter à des hommes, un peu quand elles ont fait le tour, on va dire, de leur propre périmètre, qu'elles sont déjà au sommet de leur gloire. Est-ce que ça a du sens?
Vous connaissez la dernière en date?
Alors, allez-y, dites-nous.
Alors, elle vient de faire une procédure, elle vient d'engager une procédure pour savoir si elle pourra participer contre des hommes à une épreuve masculine. C'est Lynn Sevon, la skieuse américaine.
La plus grande descendeuse américaine de tous les temps.
Donc, elle a le sentiment, effectivement, comme vous venez de dire, d'avoir fait le tour de ce qu'elle pouvait faire chez les féminines. Donc là, elle a engagé une procédure pour pouvoir participer à l'épreuve américaine de Lake Louise. Alors, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle dit, bon, je sais que je gagnerai pas, je le fais pas pour gagner, mais je le fais parce que je veux casser le plafond de verre et je veux démontrer que c'est possible. Quoi.
C'est ça. Elle sait que dans ces cas-là, elle va redescendre. C'est le cas de le dire.
Ah oui,
elle va être quoi? Elle va être au milieu du peloton parmi les hommes.
Même peut-être un peu mieux, dans le dernier tiers, peut-être même. Hein. Je sais pas du tout. Je suis pas assez spécialiste du ski, mais non, elle sera pas du tout dans les
et classements. Et ce sont des filles qui s'entraînent en fait aussi régulièrement avec les garçons sur le terrain toute la semaine.
Il y a des exemples comme ça, je pense à par exemple Gladys Epang qui faisait du taekwondo, qui a arrêté sa carrière, qui s'entraînait avec les hommes. Donc il y a effectivement des femmes qui souhaitent s'entraîner avec des hommes pour améliorer leur niveau de performance. Mais c'est intéressant parce que l'autre jour je discutais avec une jeune femme américaine qui doit avoir 28, 29, 30 ans et qui est venue en France là depuis 2-3 ans et qui faisait du foot aux États-Unis, enfin du soccer, et s'est très développé, c'est le sport féminin par excellence là-bas. Et elle disait, ici c'est rigolo parce que ici on est obligé de jouer avec les hommes puisque le football n'est pas assez développé, mais c'est bien parce que du coup techniquement ça oblige à développer des techniques qu'on n'a pas besoin de développer avec les garçons comme on le fait aux États-Unis où on joue contre nous.
Les fédérations sont globalement favorable ou pas? C'est en train de changer ou pas tellement?
Les fédérations ont changé à partir du moment où il y avait des enjeux à avoir des médailles féminines, par exemple. Bon, donc ça, les fédérations se mobilisent.
Ok pour les filles si elles rapportent quelque chose.
Oui, et les pays sont d'accord aussi, parce que sur le classement des médailles d'or aux Jeux Olympiques, on compte le nombre de médailles, on ne fait pas de distinction entre médailles hommes et médailles femmes, et donc beaucoup de pays sont montés dans les rangs, dans les hiérarchies, grâce aux médailles féminines. La France notamment, elle fait partie de ces pays qui, à une époque, je ne parle pas de la RDA, je ne parle pas de l'URSS, mais de la France a notamment beaucoup bénéficié de la féminisation de certaines disciplines. Donc voilà, après, il y a des questions aussi d'adaptation des fédérations, parce que ça, je pense par exemple au foot, le foot, il n'y a pas beaucoup de licenciés féminines, mais c'était une question un petit peu à une époque de un peu promouvoir le foot féminin par rapport à l'image foot masculin qui était un petit peu dégradée.
Sylvain Landa, vous êtes bien en ligne
juste,
avec nous.
Juste pour les fédérations, oui. Je reviens sur les fédérations, moi je viens de la Fédération Française de Handball. Il y a tout un tas de fédérations, on ne le sait pas, où ça existe la mixité. Le hand loisir, ça existe tous les week-ends en France.
Ça part de la société, donc.
Mais oui, il y a des adultes, hommes et femmes, qui jouent ensemble, l'un contre l'autre, et ensemble au handball. Ouais. Voilà, comme ils peuvent jouer au basket.
Sylvain Landa, vous êtes d'accord sur cette constatation? Il faut que ça part de la société et ensuite que ça remonte, et ça prend plusieurs années pour que ça remonte au sport de haut niveau et à certaines conditions, bien évidemment, sur le plan de la compétition. Est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous? J'ai l'impression qu'on vous... Oui, on vous a perdu. On va vous rappeler bien évidemment juste après le flash. On entend souvent, Béatrice Barbus, cette phrase « Plus l'épreuve est longue, plus le mental l'emporte sur le physique ». C'est le cas notamment dans la voile. Est-ce que, sous-entendu, à ce moment-là, tout est possible, donc évidemment pour les femmes?
On le voit, je ne sais pas, il faudrait vérifier ça sur tous les sports qui nécessitent de l'endurance, mais c'est vrai que quand j'ai réfléchi, que ce soit les trails, les raids, toutes ces épreuves de longue durée où ça nécessite beaucoup d'endurance, les femmes et les hommes sont quasiment, pas à égalité, mais quasiment. Je me souviens avoir vu une course, moi, je ne sais plus, c'était à plus de 5000 mètres d'altitude à la télévision en Himalaya, femmes et hommes, il y avait 8 participants, je ne sais plus combien il y avait de kilomètres, 600 km à faire. 8 participants, il y avait 3 femmes et 5 hommes, et c'est une femme qui avait gagné. C'est la femme, une des femmes.
Vous restez
gagné
avec nous, Béatrice Barbus, Patrick Mignon, on rappelle Sylvain Landa. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, pour poser vos questions sur la mixité dans le sport. On aura un reportage intéressant sur le roller derby. C'est le moment de découvrir ce sport.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle de la mixité dans le sport aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale du sport féminin. Que peut apporter cette mixité et à quelle discipline? Et jusqu'à quel point le public aime ça ou pas d'ailleurs? Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Béatrice Barbus, ancienne sportive de haut niveau, ex-handballeuse, secrétaire générale de la Fédération française de handball, est avec nous. Vous nous avez cité énormément d'exemples de disciplines sportives. On voit bien que les choses bougent. Patrick Mignon, sociologue du sport, vous êtes également avec nous. Et Sylvain Landa, directeur adjoint du groupe de réflexion Sport et citoyenneté. Vous êtes au téléphone avec nous, on vous a perdu en première partie d'émission. Oui. Sylvain Landa, par rapport à ce qu'attend le public, alors quand on dit le public, c'est celui qui regarde le sport à la télévision, il faut quand même être lucide parce que c'est aussi ce qui permet au sport de vivre hein, sur le plan financier, mais pas que. Mais si on parle aussi de la société elle-même, des pratiques sportives, pas seulement au plus haut niveau, hein, mais au niveau des citoyens, quels sont, à votre sens, les attentes aujourd'hui du public?
Oui, désolé si j'aurais dit des choses qui ont été partagées ces dernières minutes. Je pense qu'il y a deux volets d'intervention, et ça avait été dit au début notamment. Je pense que le haut niveau est important, notamment en termes de médiatisation, parce qu'il permet de toucher indifféremment tous les publics sur tous les territoires. Et je pense qu'il y a une vraie volonté, en tout cas du mouvement olympique aujourd'hui et des fédérations internationales, de promouvoir certaines épreuves mixtes. Et c'est assez intéressant parce que ça permettra peut-être de faire évoluer la pratique de tous au quotidien.
Et pourquoi il y a cette volonté selon vous ?
Je pense qu'il y a une volonté d'avancer sur les questions un peu d'égalité et de promotion de la place des femmes dans le sport de façon générale.
Et donc que le sport soit le reflet des évolutions de la société, finalement.
Oui, soit le reflet, ou alors soit aussi quelquefois peut-être moteur. Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Je pense que le mouvement olympique et le programme des Jeux olympiques est désormais proche de la parité en termes d'épreuves. On voit que de plus en plus les programmes se rapprochent de cette égalité de traitement en termes d'épreuves. Donc c'est déjà une première chose. Et c'est vrai qu'on voit de ces dernières années des épreuves mixtes, ou des épreuves qui sont ouvertes à tous, qui s'intègrent dans le programme des Jeux Olympiques. Ça, c'est une première évolution qui est intéressante.
Oui.
Et je pense que la deuxième évolution, c'est des pratiques qui émergent de façon un peu spontanée, peut-être, sur les territoires ou dans certains pays. Des adaptations de certaines pratiques sportives qu'on connaît et qui, sur des aspects un peu plus ludiques, un peu plus éducatifs, permettent de favoriser cette mixité. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet de jouer ensemble, filles, garçons, indifféremment, et ça permet peut-être aussi d'apprendre à collaborer avec l'autre, à connaître l'autre, et ça peut renforcer aussi ce côté un peu éducatif du sport qui est souvent loué, mais qui mérite aussi d'être illustré de manière concrète. Et je pense que ces pratiques mixtes, ça peut permettre cela.
Mais Béatrice Barbus,
ces pratiques, elles se font pas mixtes, elles se font pas seulement de manière spontanée. Je le répète, il y a des fédérations et de nombreuses fédérations qui aujourd'hui proposent des activités mixtes. La FSGT, l'UFOLEP, le hand, le basket. Donc aujourd'hui, il est possible dans le monde fédéral. Donc parce que on oppose toujours ce sport fédéral au sport spontané, pratiques libres. Bien sûr que dans les pratiques libres de plus en plus, mais dans les pratiques libres aussi, il y a des femmes qui ont envie de faire du fitness contre elles, des hommes qui ont envie de faire du bodybuilding contre eux, etc. etc. Donc, moi, la distinction, elle se fait davantage sur ce que vous disiez, monsieur Mignon, c'est-à-dire à savoir, en effet, sport de haut niveau et sport loisir, qu'il soit pratiqué de manière libre ou de manière fédérale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand mouvement sociétal qui montre qu'en effet, les gens, peut-être, veulent davantage pratiquer ensemble. Voilà, on y va. Maintenant, le temps que ça arrive vers le haut niveau, là, ça pose d'autres problématiques,
alors,
notamment physiologiques.
Justement, c'est ça. Que les fédérations s'ouvrent de plus en plus,
bien
ça, on l'a bien compris. Mais
on ne le sait peut-être pas suffisamment savoir.
Quelles sont moi, j'aimerais comprendre, qui ne suis pas spécialiste du sujet, quelles sont les conditions pour qu'une compétition soit jugée capable d'être au plus haut niveau, mixte, comme aux Jeux Olympiques?
L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la balance des sexes apparaisse complètement à l'avantage ou les avantages d'un des deux. Donc si vous faites par exemple un relais, en athlétisme, ou si vous faites le relais aussi en VTT, ou si vous faites par exemple en escrime les compétitions par équipe, vous les faites aussi avec des équipes mixtes, où vous avez alternement. Là, je veux dire, vous n'avez pas de confrontation directe entre un homme et une femme, vous aurez des et vous aurez, au bout du compte, une équipe mixte qui aura remporté une médaille. Voilà. Et puis vous pourrez apprécier les combats, comparer les combats. Donc là, il n'y a pas de problème, si on veut, en termes, effectivement, de désavantage de départ ou d'avantage de départ. Voilà. Ici, c'est les sports immatériels, ou à animal, pour objet. Oui. Pareil. Je veux dire, là, voilà, l'effort, il n'est pas fait par le cavalier ou la cavalière, il est fait par le cheval. Et c'est de la technique, etc. Voilà. Ça, là, il n'y a pas d'obstacle. Par contre, on voit bien que les problèmes vont se poser pour des sports, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'histoire du filet. Le volet, vous pouvez faire ça du volet mixte sans aucun problème, moyennant la force quand même des smash ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc là, vous avez des choses qui sont, par rapport au règlement même du jeu, sont pas des choses qui vont être déséquilibrées, vous voyez, qui vont poser un problème après de justice ou de déséquilibre trop fort.
Sauf qu'un relais mixte, ça ne donne pas la même performance technique sportive qu'un relais non mixte avec que des garçons,
c'est
par exemple.
C'est pas grave, après on comparera des performances de relais mixte. Parce qu'il y aura de nouveau une table des records de relais mixte.
Toute la question est de savoir si le public...
Exactement. Franchement, on se pose des problèmes là où il n'y en a pas. Il y a des gens qui vont vouloir faire du sport qu'avec les gens de leur sexe. D'autres en mixité,
on a bien compris.
Y a pas de souci. Ouais.
Vous me disiez hors antenne, Béatrice Barbus, que là, tout récemment, vous avez reçu un message d'une équipe de
hier,
équipe de handballeuses.
Non, pas du tout. C'est du foot. C'est les Little Miss Soccer. C'est deux jeunes femmes, Candice Prévost, une ancienne footballeuse professionnelle, et Mélina Boetti, journaliste sportive, qui sont parties faire un tour du monde pendant un an, qui s'appelle Little Miss Soccer, pour faire des reportages sur le football. Et là, elles sont en Nouvelle-Zélande. Et elles m'ont envoyé un texto hier en me disant, figure-toi que les filles, certaines actuelles et futures joueuses de la sélection, jouent dans un championnat avec les garçons U17. Et c'est une équipe de jeunes filles qui ont entre 17 et 24 ans. Et elles se posaient donc la question s'il existait d'autres sports qui ont ce genre d'organisation.
Mais donc là, il s'agit d'une équipe de filles contre une équipe de garçons.
Qui joue dans un championnat de garçons, absolument. Et j'ai un autre exemple
Et qui a gagné?
Là, elles ne le disent pas, elles font un reportage dessus.
Mais alors,
en Espagne, par exemple.
C'est quand même assez inédit.
Attendez, en Espagne. Une équipe de foot féminine de 13 ans, parce qu'elle a gagné tout en filles, donc le président a dit je vais les inscrire en garçons. Et donc, pour la première fois, elles ont participé au championnat de garçons en 2014, elles sont arrivées 12e sur 18e. Et en 2017, l'année dernière, elles sont arrivées premières. Là aussi, on a un exemple, c'est chez des jeunes filles, hein, bien sûr. Chez des jeunes, c'est un peu plus faisable, même s'il y a des différences de gabarit. Ben, la preuve, c'est des choses qui se pratiquent de manière marginale, certes.
C'est intéressant aussi, parce que moi, je parle de Nouvelle-Zélande. Hein. Alors, on dit Nouvelle-Zélande, pays de rugby, donc effectivement, les gens qui jouent au foot, c'est une catégorie plutôt minoritaire parmi les jeunes. Mais on imagine le rugby. Actuellement, au rugby, vous avez un grand problème, qui est de savoir, est-ce qu'on remporte un match de rugby par la force et la pénétration,
le poids.
Ou est-ce qu'on le gagne par l'évitement. Voilà, donc du coup, vous avez là la question de l'opposition entre force et finesse, par exemple, qui pourrait être une opposition qu'on fera assez volontiers entre d'un côté garçons et filles. C'est intéressant d'imaginer comment, dans les écoles de rugby, on pourrait faire jouer garçons et filles ensemble, parce que ça serait
une autre façon de travailler.
Une autre façon de travailler, et une façon de travailler quelque chose qu'en rugby on a perdu, notamment en France, qui est l'esprit de finesse, qui est l'esprit de l'évitement, et au profit d'un jeu d'affrontement. Alors, vous voyez, c'est même dans la progression d'un sport, vous voyez, si vous continuez à penser qu'il y a deux niveaux, le très haut niveau, etc., qui suppose une division, par contre, dans ce qui est la formation à une activité, il peut y avoir un gain très très fort en termes de technicité pour les.
Mais
ça
change aussi sa logique interne quelque part.
Vous restez avec nous. Sylvain Landa, vous souhaitez réagir.
Oui, cette notion d'évitement et de contact, elle est intéressante sur ces disciplines et sur l'essor de certaines disciplines qui sont mixtes, notamment à l'école, qui reposent sur l'absence de contact. L'ultimate, par exemple, qui est le frisbee, c'est un sport qui est mixte et qui se joue justement sur contact.
Vous pouvez nous rappeler exactement en quoi ça consiste?
C'est une sorte de frisbee, en fait. C'est un sport collectif qui associe à la fois des hommes et des femmes, qui est auto-arbitré aussi, c'est intéressant.
On pratique beaucoup sur les plages dans certains pays.
Donc là c'est sur un terrain, et en fait seul le frisbee avance quand on reçoit le frisbee, on n'a plus le droit d'avancer, on doit se démarquer pour pouvoir recevoir le frisbee et marquer un point à l'image du football américain. En fait c'est un sport qui repose justement sur... sur l'équilibre en fait entre les différentes compétences. On s'affronte pas, on est là pour se déplacer, pour chercher un peu les intervalles. Et c'est, ça rejoint ce que disait Monsieur Mignon sur l'évolution et sur le développement d'autres capacités qui peuvent se faire en jouant sur l'évitement. Je pense que c'est un élément intéressant à prendre en compte dans ces questions.
Restez avec nous, une pause avec Alice Merton, et juste après, on vous présente un petit entraînement de roller derby. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Milliards de voisins dans le sport aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale du sport féminin. Je vous propose de découvrir un sport qui est franchement pas très connu, le roller derby. C'est un sport d'équipe, un des seuls sports de contact majoritairement d'ailleurs pratiqué par des femmes. Alors quand on dit sport de contact, ça veut dire qu'on y va, hein, on va dire. 10 joueuses chaussées de roller dit quad, c'est-à-dire ce sport des sortes de basket à roulettes. Le sport est né officiellement aux États-Unis dans les années 1920. Les ligues aujourd'hui s'appellent les gueuses de Pigalle, les tamponneuses ou encore les griottes girls. Et la Fédération française de roller autorise les équipes mixtes. Mais c'est vrai, ce sont encore des filles qui dominent. Reportage de Baptiste Madinier. Il est allé à la rencontre de deux clubs à Paris, les Lutèces Destroyeuses et les Paris Roller Girls.
Alors moi, c'est Ophélie, dans la vraie vie. Et au derby, on m'appelle Shock No Light, donc plutôt au choc. Mon numéro, c'est le 921, et donc je fais partie des Lutèces Destroyeuses, une équipe parisienne.
Alors, je m'appelle Sabrina, et dans le derby, je m'appelle Sabotage.
Mon prénom, c'est Emmanuela, et mon surnom, alors j'en ai deux. Mon nom de joueuse, c'est Mastu, et j'ai un autre surnom qui est Beach Please.
Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu es en train d'enfiler ?
C'est des protège-coudes, et je vais avoir les protège-poignets, et puis j'ai un casque. Moi, j'ai une visière parce que je me suis pris des doigts dans les yeux plusieurs fois, ou j'ai eu un beau cocard une fois après un match.
Ah oui.
En plus, c'était ma propre coéquipière qui m'a frappé à la tête avec son casque. C'était un peu dommage.
Sympa.
Elle n'a pas fait exprès pour sa défense. Et la base de tout, c'est les quads, donc les rollers.
Et pour qu'on se représente bien, donc du coup, les quads, ce sont pas des roues linéaires comme on peut imaginer sur les rollers, ce sont des roues parallèles.
Ouais. Et justement, c'est ça la différence, c'est que c'est pour ça qu'on joue avec ses patins et pas avec d'autres. Parce que du coup, on a les roues qui sont à plat et on peut tenir sur un seul pied sur nos quatre roues.
Allez, en attendant, la jameuse, c'est Sartcheux du côté de Charleroi qui est sorti de penalty box et qui effectue son passage initial. Mon derby name, du coup, c'est Speak Her, parce que j'ai commencé par speaker des filles.
Est-ce que vous pouvez me rappeler, peut-être de façon un peu schématisée, les règles du roller derby ?
Donc le principe du roller derby, une piste ovale avec deux équipes sur le track, donc le piste ovale qu'on appelle le track, deux équipes sur le track, chacune composée de quatre défenseuses et une attaquante, qu'on appelle la jammeuse. Le principe pour la jammeuse va être de dépasser les défenseuses adverses, qu'on appelle les bloqueuses, et la jammeuse va marquer un point pour son équipe à chaque fois qu'elle va dépasser une bloqueuse. Allez, il y avait un trou à l'extérieur, mais c'est bien fermé par les Belges qui obligent la jammeuse parisienne à repartir à l'arrière du pack.
Sur le track, je m'appelle Buzz l'éclair.
Alors, si je dis pas de bêtises, vous êtes la jameuse, c'est ça?
Ouais, une des jameuses de l'équipe.
Est-ce que c'est agréable de faire un sport physique qui est peut-être le seul qui est majoritairement pratiqué par les femmes ou...
Si, si, on a l'impression de faire le truc pour nous et par nous, donc c'est vraiment cool.
J'ai lu qu'il y avait une devise du roller derby, c'était par les joueuses.
Par les joueuses, pour les joueuses, ouais.
C'est pris pour l'air pour la gueuse.
J'ai commencé à Orléans parce que j'y vais là-bas pour mes études. Et après, je suis arrivée donc, chez Paris Roller Girls et j'ai commencé totalement par hasard. J'avais une copine qui avait commencé aussi donc, dans la Ligue d'Orléans. Puis j'y suis allée, j'ai trouvé ça super intéressant, la stratégie. Et puis il y avait le contact et ça avait l'air d'être des femmes un peu badass. Ça peut être mon style. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça va pas faire plaisir à ma mère et du coup voilà, je me suis inscrite.
Pourquoi ça fait pas plaisir à ta mère?
Parce qu'elle a un peu peur que je me fasse mal, que j'ai des bleus. Voilà, enfin, c'est quand même un sport de contact, donc du coup voilà, j'avais jamais voulu faire de la boxe ou des choses comme ça quand j'étais petite. Mais c'est vrai que ma mère, bah, elle était un peu dans cet imaginaire-là de dire c'est un sport violent où ma fille elle va se faire mal.
Oui, donc c'est pas violent parce que ça reste ultra codé, il y a beaucoup de règles, mais ça reste quand même très physique. Et tout à l'heure tu disais que c'était justement que c'était des filles badass qui le faisaient.
Ce qui me fait marrer au final, je pense que c'est aussi les garçons, ils font ce sport, ils le pratiquent de manière un petit peu différente parce que on va pas jouer sur les mêmes stratégies, sur les mêmes tactiques. Mais n'empêche que bah ils suivent les règles que des femmes ont décidées. Moi en plus il faut savoir que je suis aussi coach mais d'une équipe de garçons. Donc je suis vraiment pour la mixité dans ce sport parce que je trouve que c'est très important pour qu'il se développe. Mais c'est vrai que c'est une des choses qui a touché beaucoup d'entre nous en tant que femmes quand on a commencé le roller derby, en tant que fille, de dire voilà, c'est un sport où bah je peux faire du contact. Alors oui, au début on se dit je vais taper les autres. Ça m'a permis d'accepter ma morphologie et de l'utiliser et d'en être fière. Et voilà, on est fiers de ce qu'on fait et on apprend à se muscler, on apprend à se renforcer et on apprend à s'accepter.
Voilà, pas le genre de filles qu'on va agresser dans le métro, hein, les filles qui font du roller derby, Patrick Mignon.
Non, mais et celles qu'on ne sait pas qu'elles font de la boxe thaï et que voilà. Non, mais ce que je trouve, c'est assez, on se demandait tout à l'heure d'où ça vient. Mais par exemple, là, bon, les États-Unis parce que c'est un lieu de production sous-culturel ou contre-culturel extrêmement important. Il y a beaucoup des nouveaux sports qu'on a adoptés ou des manières de faire du sport qui viennent effectivement de la contre-culture américaine, la façon dont elle a utilisé les instruments traditionnels. Et là, on a ça, parce que c'est des punks ou des hard rockeuses. Hein. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des filles qui font des choses qui étaient réservées aux garçons. Donc, du coup, bah oui, elles sont du côté de la transgression. Les parents ne sont pas d'accord. C'est pas de la danse, c'est pas de la gym. C'est simplement des sports où on met en avant... Bah, le fait qu'on peut aussi faire autre chose quand on est une fille que de mettre un tutu ou de monter sur un poney.
Sylvain Landa, vous êtes toujours en ligne avec nous du groupe de réflexion sport et citoyenneté.
Oui, je vous entends.
Vous avez entendu le reportage?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit côté aussi pour embêter ma mère aussi d'une certaine manière?
C'est intéressant, c'est aussi quelque part une manière de s'affirmer et de s'émanciper pour certaines, sûrement, de pratiquer un sport que M. Mignon a dit, qui peut être transgressif, ou un peu subversif. C'est une façon, et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir, quelles que soient les motivations ou quelles que soient les attentes qu'on souhaite, pouvoir faire du sport. Et je suis d'accord sur le fait que les fédérations s'ouvrent de plus en plus sur de nouvelles formes de pratiques.
Parce qu'il y a aussi, on le disait en début d'émission, de plus en plus de femmes dans les fédérations. Et d'ailleurs, Béatrice Barbus, vous avez beaucoup commenté le reportage pendant qu'on le diffusait. Je sais que vous connaissez bien globalement tous ces sports d'équipe. Mais vous disiez finalement, une fille qui coach une équipe de garçons, c'est ça aussi la vraie mixité?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à effectivement voir de plus en plus de femmes entraîneurs, arbitres ou dirigeantes, mais souvent, on les cantonne au secteur féminin. Voilà, la vraie mixité, c'est quand les femmes entraînent des hommes ou des hommes entraînent des femmes ou qu'elles arbitrent des hommes ou qu'elles arbitrent des femmes, peu importe.
Alors, le sport féminin, il faut quand même le reconnaître, est de plus en plus plébiscité tout de même par le public et en même temps, on parle de plus en plus de sexisme dans le sport. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Du sexisme dans le sport ». Ça semble assez paradoxal ou pas? finalement.
Ben non, justement. Vous demandiez, vous posiez la question tout à l'heure à Sylvain Landa, des raisons pour lesquelles éventuellement les instances se rapprochaient de ces problématiques-là. Je pense que c'est une manière aussi de se rapprocher des valeurs que le mouvement sportif est soi-disant porteur. Des valeurs de générosité, de respect, d'égalité, de justice. Quand on voit que certaines catégories de la population ne peuvent pas ou ne pouvaient pas pratiquer de sport, elles sont où ces valeurs? Donc là, pour moi, c'est une façon de retrouver sa vérité aussi. Le mouvement sportif en a pris conscience parce qu'il y a eu des jeunes femmes, des sportives, des personnes comme moi, dont je fais partie, qui se sont élevées ces dernières années, comme Billie Jean King, et je ne me situe pas au même niveau, pas du tout loin de là, mais qui nous ont servi d'exemple, qui font qu'aujourd'hui, on bouscule un peu ces institutions.
Depuis 73, justement, depuis la victoire de Billie Jean King.
Je le dis souvent, oui, les femmes de ma génération, moi j'ai plus de 50 ans, on a laissé tomber le combat dans les années 90-2000, mais je crois que dans les autres secteurs...
Mais alors, quelles sont les réalités aujourd'hui du sexisme dans le sport?
Les réalités? Vous voulez que je vous donne les réalités? Les réalités. J'ai eu un coup de téléphone il y a exactement 10 jours de Charlotte Girard, je vais la nommer, qui est arbitre internationale de hockey sur glace et qui part à Pyongyang, qui doit peut-être aller déjà partie d'ailleurs, pour entraîner. C'est la seule arbitre de la Fédération française de hockey sur glace à être sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Et elle m'appelle, elle me dit, je ne sais pas si je vais y aller. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, j'en peux plus des propos sexistes là que je subis depuis un mois, depuis que je sais que que j'ai été la seule arbitre et que les hommes n'ont pas été choisis, que c'est elle, une femme, qui a été choisie. Je ne vais pas répéter au micro les propos qu'elle entend quotidiennement. Là, sa fédération a réagi, enfin. Mais vous voyez, ça pousse une femme à quasiment refuser d'aller aux Jeux Olympiques. Enfin, le sexisme, il est là, il est bien présent, tous les jours. Je crois qu'il faut lire l'article aussi d'Anne-Flore Marxer, la snow rider qui a écrit, qui a eu une double page dans l'équipe la semaine dernière, qui explique ce qu'est le sexisme dans son sport. Quand son homologue masculin reçoit une voiture pour son premier prix, qu'elle reçoit un t-shirt, alors qu'elles ont fait à peu près, ils ont fait la même performance à une figure près. Je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples, des centaines d'exemples, tous les jours. Tous les jours, le sexisme est encore bien présent dans le milieu sportif. Et donc, cette question de la mixité, moi, je trouve qu'il est un peu prématuré aujourd'hui. Alors, elle se pose, on y répond. Bien sûr qu'il faut la traiter, mais elle est un peu prématurée parce qu'il y a des problématiques qui sont beaucoup plus urgentes sur le plan humain.
D'abord, se préoccuper du sexisme dans le sport avant de s'occuper de la mixité?
Ben oui, aujourd'hui, il y a des violences aussi sexuelles qui sont encore un peu taboues dans le sport. On le voit avec les Américaines là, qui commencent à parler, que ce soit les gymnastes en l'occurrence. Voilà, en France, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ce type de problématique également.
Patrick Mignon?
Mais oui, d'une certaine façon, la mixité, qu'est-ce que c'est qu'un club aujourd'hui? Un club dans beaucoup de sports. Un club, c'est majoritairement des hommes. Très majoritairement des hommes. Voilà. Donc, si on veut qu'il y ait de la mixité, il faut qu'il se féminise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y ait une entrée et de favoriser l'entrée des femmes. Et il y en a des femmes, parce qu'on voit bien, c'est intéressant, on voit quelquefois dans un club, on a le niveau, si on veut, de la décision qui est très masculin, et puis on a le niveau de des petites mains, on va dire.
De l'opérationnel.
De ouais. Là, par contre, il y a une forte féminisation. Quand on prend les licences, c'est intéressant de voir certaines licences, par exemple, qui sont féminisées. Mais c'est pas les licences de président, c'est pas tout ça, c'est des licences qu'on prend pour adhérer au club, mais qui font qu'on va jouer un rôle, effectivement, d'aide et de soutien, ce qu'on appelle en sociologie le principe de soutien ou de renfort.
C'est donc, pas forcément lié à l'aspect économique de telle ou telle discipline.
Au
pas
prestige.
Seulement.
L'économie et le prestige, hein. Ça c'est.
Le prestige est fondamental. C'est le prestige qui fait qu'effectivement un certain nombre d'hommes dans nos institutions sportives ont du mal de laisser leur place. Et donc je vois pas comment on va pouvoir féminiser les instances s'il y en a qui ne laissent pas leur place. Hein.
Est-ce que pour vous, il y a, Béatrice Barbus, à l'heure actuelle tout de même, des pays qui sont nettement plus avancés sur cette question de la place des femmes et de la lutte contre le sexisme dans le sport et donc sur la mixité dans le sport?
Les pays scandinaves, voilà. Je crois que c'est surtout
classique.
C'est au niveau sociétal dans leur ensemble, donc au niveau sportif, c'est également le cas, bien évidemment. Il y a aussi certains sports, je parlais tout à l'heure du soccer, du football, du soccer aux États-Unis, c'est un sport typiquement féminin là-bas. Les États-Unis, il y a le titre 9.
N'est pas le sport le plus populaire aux États-Unis.
Chez les filles, si.
Chez les filles, c'est ça, mais pas chez les garçons. Sur le plan national, c'est pas là qu'il y a les plus gros enjeux financiers.
Opsolo, c'est une star aux États-Unis. C'est une star, vraiment aux États-Unis. Hein. Je parlais des États-Unis parce que je voulais parler du titre 9. Aux États-Unis, il y a une loi qui explique que si vous dépensez un dollar pour le masculin, c'est un dollar pour les femmes. Ce qui explique que les infrastructures, par exemple, sportives, sont au top pour les femmes, aussi bien que pour les hommes. Ce qu'on n'a pas, nous, en France. Et là aussi, vous posiez cette question, le sexisme, il se situe aussi au niveau des collectivités territoriales et de la manière dont la dépense publique se fait. Les équipements sportifs sont très largement utilisés et surutilisés par les garçons et sous-utilisés par les femmes. Aux États-Unis, c'est pas possible.
Alors, donc, place du sport aussi dans l'éducation, dans la façon de se construire, de construire les jeunes aussi, non ?
Tout à fait, à l'école, donc, en l'occurrence, quelle est la place de l'éducation physique et sportive à l'école et la manière dont les instituteurs, les professeurs mettent en place ces programmes. Je vais vous donner un dernier exemple qui m'a été donné il y a un mois de sexisme. Un prof qui fait faire de la course autour d'un stade à ses élèves, j'en rigole d'avance.
Ça se passe en France,
hein ? Oui, bien sûr. C'est une inspectrice qui me disait ça de l'éducation nationale. Et donc, il est au bord, il fait courir les garçons avant les filles, je sais pas pourquoi il les fait pas courir ensemble, peu importe. Et puis, il encourage, il dit, allez, allez, vas-y, encore, accélère, accélère. Puis c'est le tour des petites filles. Et là, vous l'entendez plutôt dire souffle bien, allonge la foulée. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans la même catégorie. D'un côté, on a la catégorie du bien-être. Et puis de l'autre, dans la catégorie de la performance. Et après, on se demande pourquoi les femmes sont moins performantes que les hommes quand on est plus haut.
Merci à vous trois. Merci à vous, Béatrice Barbus. Vous
Merci
publiez vous, du sexisme dans le sport.
Merci.
Très, très imagé. Vos exemples, Patrick Mignon, sociologue du sport également. Et Sylvain Landa, directeur adjoint du groupe de réflexion Sport et Citoyenneté. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, la rubrique des magazines. On vous dit à demain, même heure, même endroit.